Nous allons commencer. Bonsoir. La 28e conférence des parties, COP 28, a débuté depuis 6 jours à Dubaï. Les événements officiels et les tables rondes de la journée d'aujourd'hui devaient être officiellement consacrés à l'énergie, mais celle-ci devait être surtout au centre des négociations de la déclaration finale entre les représentants des 197 pays plus l'Union européenne d'ici la fin théorique de la COP le 12 décembre. Une nouvelle version du projet de déclaration finale a été rendu public ce matin, qui laisse ouverte la question de fond. Va-t-on vers l'engagement de, je cite, une sortie juste et ordonnée des énergies fossiles, ou rien du tout sur le sujet? Autre débat soumis aux négociateurs, inscrire l'objectif de triplement des énergies renouvelables d'ici 2030, ou ne pas mentionner le sujet. En attendant, les scientifiques du Global Carbon Project ont publié ce matin leur nouveau rapport sur les émissions de CO2 produites par l'utilisation du charbon, du gaz, du pétrole et du méthane dans le monde pour se chauffer, s'éclairer ou rouler. Sans surprise, elles devraient franchir un nouveau record en 2023. Ces scientifiques jugent désormais inévitable que le seuil de 1,5 degré de réchauffement de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle sera dépassé de manière constante. Et il y a une chance sur deux, ou plutôt un risque sur deux, pour que cela arrive dans seulement...
Je le rappelle, en 2015, la somme des contributions nationales donnait un réchauffement compris autour de 3,8 degrés, alors qu'il fallait atteindre donc entre 1 degré et 2 degrés, donc on mesure le chemin qu'il y avait à parcourir. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3 degrés, donc on peut dire qu'un certain chemin a été parcouru, mais évidemment, ça ne correspond pas au chemin qu'il faut parcourir. Mais en tout cas, organiser cette COP à Dubaï, c'est au fond peut-être se mettre face à la réalité, une réalité qui est que nous ne sommes pas sortis des énergies fossiles, nous en restons extrêmement dépendants, et d'une certaine manière, nous avons pu détourner le regard, faire semblant de ne pas en être dépendants au point où nous en sommes dépendants, et être à Dubaï avec ces milliers de lobbyistes qui sont là pour les hydrocarbures, c'est être obligé de regarder les choses en face. Moi, j'ai écrit là-dessus dans ma chronique à la Croix. Je pense que l'idée que les masques tombent à Dubaï est peut-être une bonne chose. Et en tout cas, quelque chose qui n'est pas assez commenté, c'est-à-dire qu'à l'évidence, ceux qui sont les plus gros producteurs d'hydrocarbures au monde vont être obligés de dire les efforts qu'ils vont faire. Alors, vous l'avez commencé à le dire, ils essayent de dire qu'ils vont faire des efforts tout en ne réduisant pas leur production et même en l'augmentant. Ça, c'est un premier point sur lequel, évidemment, la pression doit peser, parce qu'il y a toujours cette tentation d'avoir un récit qui fait tout peser sur la progression des technologies et non pas sur la transformation des comportements et sur la transformation des rapports de force. Et l'un des points essentiels par rapport à l'accord qui sera conclu à la fin de cette COP, c'est de regarder très précisément, le diable est toujours dans les détails, comme on dit, qu'est-ce qui aura été écrit sur cette question des fossiles? Est-ce que c'est la décarbonation ou est-ce que c'est la sortie progressive des énergies fossiles? Ce sont deux choses différentes. On peut très bien imaginer de décarboner, de ne pas sortir du fossile en faisant peser les choses par rapport à des technologies encore balbutiantes mais qu'on prétend pouvoir d'ici 2050 porter à leur maturité. Bon, personnellement, je n'y crois pas. Deuxième élément intéressant, vous l'avez dit, il y a la question du renouvelable. Enfin, d'une certaine manière, cet enjeu des renouvelables est sur la table. Le problème est que depuis 2015, nous n'avons cessé d'additionner en fait des mondes parallèles. On n'est pas sorti des fossiles, mais on a augmenté nettement la part du renouvelable par rapport à l'ensemble de l'énergie que nous consommons. Et on sait déjà qu'il va falloir l'augmenter substantiellement. Mais le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait interagir ces mondes parallèles et comment est-ce que l'augmentation des renouvelables va conduire à une diminution des fossiles. C'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est absolument pas, imaginé, pensé, acté par rapport à ce qui va se passer. Troisième point peut-être intéressant, des secteurs entiers qui sont extrêmement émetteurs sont aujourd'hui pris en considération et mis les négociations prennent en considération ces éléments. On peut penser à l'agroalimentaire, c'est un point essentiel. Vous savez, en France, sur lequel on a fait beaucoup d'efforts et sur lequel on n'est pas si mauvais, l'agriculture est toujours le sujet, est le secteur qui n'a pas diminué ses émissions de gaz à effet de serre depuis qu'on commence à porter les choses, parce que c'est un nœud. C'est un nœud en termes historiques, c'est un nœud en termes de lien entre le social et l'écologique, c'est un nœud en termes d'exportation, c'est un nœud à l'échelle européenne. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de cette COP, des sujets qui sont des sujets très compliqués, sur lesquels il y a des nœuds, sont sur la table et que à la fin, sous le regard des opinions publiques qui sont bien davantage mobilisées encore que ce qu'elles étaient, me semble-t-il, ou plus, en tout cas, mieux averties, les choses seront plus claires, les masques seront tombés. Voilà ce que je pourrais dire en termes d'espoir. Mon espoir, c'est que cette COP ne sera pas entre initiés, que cette COP se déroulera sous notre regard et qu'à la fin, nous serons capables de décrypter un accord final et de voir en quoi est-ce qu'il est satisfaisant ou pas et d'essayer de porter une dynamique.
Merci beaucoup. Laura, vous devez avoir un micro à vous. Et Lucille a évoqué le changement des comportements individuels. Je pense que c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, mais c'est quoi l'articulation entre l'individuel et les rapports de force, c'est-à-dire le collectif? Qu'est-ce qui doit, comment tout ça doit s'articuler? C'est une question compliquée.
Peut-être avant de venir sur cette articulation individuelle-collectif, vous m'entendez pas?
Mettez le micro comme ça.
C'est mieux.
Vous calez contre votre menton et comme ça, quand vous tournez la tête, on vous entend tout le temps.
Bon, très bien. Je disais peut-être qu'avant d'arriver sur cette articulation individuelle-collectif, qui est importante, individuelle-collectif et structurelle, même politique. Je pense qu'il y a trois niveaux, pas deux. Je voulais un peu essayer de répondre à la question initiale sur espoir, désespoir, qui est voilà que j'aime beaucoup. Merci. Parce qu'effectivement, le premier mouvement, c'est plutôt un mouvement de désespoir, pas seulement sur le lieu, qui peut avoir aussi des facteurs positifs, comme vous disiez sur tomber les masques, mais aussi sur où on en est, c'est-à-dire que si on fait l'état des lieux, la raideur de la pente qui est à grimper, pour des cyclistes peut-être, ça vous dit quelque chose, depuis le début des négociations climatiques, est devenue beaucoup, beaucoup plus raide. Moi, je me souviens du protocole de Kyoto, donc l'accord climat de 97, c'était la première fois où on se fixait des objectifs chiffrés, et en 97, l'objectif, c'était moins 5% en 20 ans. Là, ce que nous dit le GIEC maintenant, c'est moins 43% en 7 ans. Donc, vous voyez, on passe de ça à ça, quoi. C'est le col de... Je ne sais pas quel col, mais bon.
Première catégorie.
Voilà.
Hors catégorie.
Donc le pas est difficile. Donc, ça c'est quelque chose qui va quand même pas trop dans le bon sens et avec des politiques publiques qui sont bien en deçà, qui se mettent en œuvre. On peut pas dire qu'il y a une inaction complète, mais qui rattrape pas la vitesse du changement climatique du tout. Et même un autre facteur que je jugerais vraiment inquiétant, c'est une certaine remontée d'un climato-scepticisme. Parfois même chez des élus, parfois même des personnes en responsabilité. Je pense au ministre de l'Environnement italien qui cet été a mis en doute le fait qu'il y ait un lien entre que le changement climatique soit le fait de l'humanité, les raisons anthropiques du changement climatique qui font maintenant l'unanimité chez les scientifiques. Voilà, lui, il l'a mis en cause cet été. Et donc, il y a aussi une espèce d'ambiance un peu de post-vérité auquel le Covid a peut-être ouvert les vannes. Ou ce que disent les scientifiques, ben on peut en douter et inventer tout à fait autre chose et y croire. Et la troisième
Cher Al-Jaber lui-même a été un peu mis en cause là-dessus.
Bon, après il a reprécisé. Bon. Et la troisième chose pas très positive, c'est si on n'arrive pas à remplir les objectifs dans les temps. Il y a quand même les solutions de géo-ingénierie qui ne pendent au nez. Donc soit les solutions, comme vous parliez, de captage de CO2 qui sont pas matures, en se disant bon ben voilà, on a un objectif de zéro émission. Bon, zéro, c'est une moyenne, donc on peut continuer à émettre. Si on absorbe d'un autre côté, ça ira. Donc c'est très dangereux. Il y a eu des rapports du CCFD, de Caritas, sur le danger de ce mot de zéro, de, de zéro émission nette, de neutralité carbone. Et l'autre option qui serait encore pire, du même ordre en tout cas, c'est de se fier à des technologies qui sont pas non plus matures et qui me semblent vraiment de l'ordre de l'apprenti sorcier. Hein. Il y a un beau livre de Clive Hamilton qui s'appelle les apprentis sorciers du climat, de type émettre du soufre dans l'atmosphère pour rafraîchir l'atmosphère. Donc là on joue carrément complètement avec les facteurs globaux. En sachant que voilà, on ne sait pas où ça peut nous mener ce type de solution. Et là, on est dans un technosolutionnisme hyper hyper dangereux si on n'arrive pas à changer dans les temps. Moi, je vois aussi des raisons d'espérer. Depuis que je suis engagée sur les questions climatiques, ça va faire une trentaine d'années, je vois qu'il y a une demande sociale. Ça n'existait pas, même quand je m'occupais du plan climat de Paris au début des années 2000. Personne ne parlait des COP, il y avait quelques articles, et surtout, personne ne sollicitait les pouvoirs publics pour dire « faites quelque chose ». À part le réseau Action Climat ou les Amis de la Terre, il n'y avait pas d'interlocuteur en face. Alors qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'associations, de mouvements, de rassemblements, d'actions sur le climat. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup cru et qui est très positif que cette société civile soit active et présente. Et le pape même d'ailleurs dans Laudate Deum le félicite quelque part en disant même les activistes qu'on nomme radicalisés parce qu'ils jouent un rôle dont la société a besoin. La deuxième chose, c'est qu'il y a des techniques maintenant aussi. On sait qu'il y a pas mal de solutions qui existent et quelquefois ce qui nous manque pour les mettre en œuvre, c'est plus un facteur humain qu'une invention technologique. Quand on pense par exemple à l'isolation des bâtiments, pareil, il y a 20 ans, l'isolation des bâtiments isolés par l'extérieur, penser qu'on allait baisser d'un tiers ou de moitié les émissions ou construire des bâtiments neutres, voire à énergie positive, personne n'y croyait. C'était vraiment, à part les Suisses, en France, on se faisait traiter de dingue. Moi, je peux vous citer des gens qui nous traitaient de dingue il y a 20 ans et qui maintenant le disent tous les jours que c'est une bonne solution. Il y a quand même des choses qui sont devenues des évidences. Et quand on les met pas en œuvre, je pense par exemple aux copropriétés. Ce qui est difficile, c'est pas d'isoler techniquement, c'est d'avoir suffisamment de personnel formé pour savoir isoler. Donc c'est une question humaine. C'est de se mettre d'accord au sein du code de propriété pour prendre la décision. C'est une autre question humaine. Donc c'est des choses sur lesquelles on sent qu'on peut avoir plus prise en fait. C'est pas simple, mais on peut avoir plus prise. Un autre point que je trouve vraiment très intéressant, c'est tout le mouvement mondial sur le désinvestissement, qui pose vraiment clairement le fait qu'il y a une question financière. Donc, je parlais de questions humaines, mais il y a une question financière importante et que ce qui alimente, on a un levier en fait très fort, plus encore fort que de baisser notre thermostat ou de prendre son vélo. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Donc, comme individu, comme collectivité, comme diocèse, comme congrégation, comme banque, comme institution. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui, depuis la COP de Paris, a énormément évolué. Juste pour vous donner une idée, en 2015, on était à 30 milliards désinvestis des fossiles. Donc, on avait décidé d'enlever du financement de nouveaux projets fossiles. Et maintenant, on est à 40 000 milliards. Enfin, ça a vraiment énormément augmenté. Et c'est un mouvement aussi dans lequel les organisations religieuses ont un rôle, un tiers de ce désinvestissement est le fait d'organisations religieuses dont bonne partie catholiques. Donc il y a à rougir de ça.
À la fois, effectivement, il y a une résistance à ça, notamment aux États-Unis, avec des États qui ont contraint les grands fonds d'investissement d'arrêter de désinvestir dans le vert en disant il faut sortir des résultats, enfin il faut sortir du profit et pas désinvestir. Enfin, c'est
voilà. Et peut-être en dernier, je sais pas, j'ai pas regardé l'heure malheureusement. Il faut me couper. Je pense que les acteurs confessionnels sont un nouvel acteur en fait. Ça fait pas mal de COP qui sont présents, qui a des textes, qui a des déclarations. Là, il y a un pavillon de la foi. Il y a le pape qui écrit un texte 2 mois avant la COP exprès. Ça amène quand même un intérêt, même si finalement il n'a pas pu y aller, mais en fait qui annonce aussi qu'il va à la COP et qui exprime son extrême inquiétude, qui exprime des mots qu'on aurait qualifiés d'alarmistes, d'inutilement alarmistes il y a quelque temps, qui dit le monde s'effrite, enfin c'est le mot collapse qui est utilisé en anglais, donc en français ça serait plutôt s'effondre, on est point proche d'un point de rupture. Enfin, il est alarmé, il est inquiet et il le dit haut et fort. Lui-même et aussi de manière collective pour Glasgow, il avait impulsé une déclaration de toutes les religions avec des représentants bouddhistes, musulmans, juifs, etc. Et en France même, il y a eu une déclaration interreligieuse qui a été adoptée pour cette COP. La précédente, c'était pour la COP 21. Donc voilà, il y a un sursaut, je trouve, qui est intéressant.
Merci beaucoup. Lequel des deux veut poser la première question ?
Je peux me permettre de dire quelques, de réagir, enfin d'apporter aussi quelques éléments avant de poser la question. Pareil, je reviens sur la question. Avons-nous des raisons d'espérer ? Et je voulais un peu travailler sur, en français, derrière le verbe espérer, il y a deux termes, l'espoir et l'espérance, et je voulais un petit peu articuler mon propos autour de ça. Je trouve que vous avez été peut-être un peu optimiste, vous avez quand même de l'espoir par rapport à cette COP. Moi, j'avoue que j'ai assez peu d'espoir par rapport à toutes ces discussions internationales. Pour beaucoup de raisons que vous avez déjà citées, le symbole d'une COP dans les pays pétroliers avec le président qui est aussi PDG d'une des plus grandes compagnies pétrolières, qui il y a quelques jours a nié le lien entre notre consommation d'énergie fossile et le réchauffement climatique. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai tiré ça des conférences de Jean-Marc Jancovici, il aime bien montrer un petit graphique. On voit l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis les années 60, qui augmente de manière continue, sans aucune inflexion. Et il met des petits points, sommet de Rio, accord historique de Paris, COP 27. Et au fait, la courbe ne bouge pas du tout, quoi. Donc on peut se poser la question. Alors peut-être que la courbe aurait été encore plus exponentielle sans les COP, bien sûr. Mais il y a quand même un énorme enjeu.
Le chiffre que donnait Lucille tout à l'heure, le fait qu'on est passé de 3,8 à 3 en tendance.
Tout à fait. Donc on peut penser qu'il y a un ralentissement. Et on peut pas, de toute façon, on peut pas relire le passé en se disant que serait-il passé sans les COP. C'est un exercice difficile. Mais je trouve que voilà, il y a quand même assez peu de signes d'espoir concret. Alors il y en a quelques-uns, on les a cités, mais je suis quand même assez pessimiste. Enfin, je voulais exprimer ça aussi. Et essayer de faire une distinction. Enfin, je pense qu'il y a aussi à un moment, et je me permets de le faire parce qu'on est au centre Sèvres, dans cette maison, il y a la nécessité de passer de l'espoir, donc derrière le terme espéré, à l'espérance. Et là, je reprends une distinction de Moltmann qui a été citée par Hélène Noisette lors d'une conférence cet été, et j'aime bien cette différence entre le futur et l'avenir. Alors c'est intéressant parce que le futur, il le définit comme ce qui va arriver à partir du présent et à partir des lois qu'il connaît, donc une succession temporelle où les choses évoluent de manière prévisible. Alors là, on voit quand même les courbes qui évoluent plutôt vers le haut. Et ensuite, il y a l'avenir. Et l'avenir, c'est le nouveau qui pourrait encore jaillir. l'inattendu dans cette succession-là, et dans laquelle le croyant reconnaît la venue de Dieu. Voilà. Et donc je pense que peut-être en ayant cette espérance, on peut croire qu'il y a du neuf qui va arriver. Et au fait, dans Laudate Deum, donc le pape François, là je cite, il parle un peu de ça, je trouve. Il dit « Dire qu'il n'y a rien à espérer serait un acte suicidaire ». Il dit encore « Nous ne pouvons renoncer à rêver que cette COP28 conduira à une accélération marquée de la transition énergétique, si nous avons confiance dans la capacité de l'être humain à transcender ses petits intérêts ». Et je pense qu'il y a de l'ordre il y a l'espérance, il y a un avenir qui peut jaillir. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de la réalité, mais peut-être que ça peut nous aider à dépasser le premier sentiment que je décrivais au début de mon intervention, du désespoir, en disant on va se couper du déni ou de la paralysie. Et si on pense que chaque acte positif, chaque acte d'amour qu'on pose, eh bien, a une valeur d'éternité et est bon en soi, eh bien, on peut aussi penser que notre action a du sens. Et enfin, donc le pape François lui aussi rappelle que dire ça nous appelle à l'action collective, individuelle mais collective. Et il dit que voilà, le soutien de tous est nécessaire. Donc il parle des groupes radicalisés qui sont nécessaires, qui permettent d'avoir une saine pression sur les gouvernements. Et il dit aussi les revendications qui émergent d'en bas partout dans le monde, où les militants des pays les plus divers s'entraident et s'accompagnent, peuvent finir par exercer une pression sur les facteurs de pouvoir. Et on peut espérer qu'il en sera ainsi concernant la crise climatique. Donc il faut, voilà, il y a peut-être un multilatéralisme d'en bas, c'est le pape François qui dit ça, qui peut émerger. Et donc un exemple, et je termine avec ça, c'est l'appel de plus de 30 organisations, communautés, et associations chrétiennes, a organisé, donc récent, l'appel a été lancé juste avant la COP, a organisé des cercles de silence un peu partout en France, donc qui sont des actions à la fois de prière, d'intériorité, mais aussi dans l'espace public, donc un message qui est donné aux passants, selon les lieux où ils ont lieu, enfin les lieux où ils sont organisés, aux décideurs, et c'est peut-être une manière d'exercer une saine pression sur les décideurs politiques. Donc voilà, par exemple, les signataires de cet appel, il y a le mouvement La Dot aussi, il y a Lutte et Contemplation, mais il y a aussi les Jésuites, la province française des Auxiliatrices, etc. etc. Donc voilà, je pense que c'est un bon exemple de saine pression qu'on peut exercer et qui est nécessaire, je pense, pour que les négociations internationales aboutissent pour mettre en place un rapport de force. Vous en parlez.
Vous avez une question ?
Pardon, oui, alors j'ai oublié la question. Et ma question, exactement, ma question c'est, à vous Lucille, vous parliez de la place des rapports de force, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que des négociations au niveau international peuvent aboutir sans un rapport de force et comment, avec votre expérience politique, peut-être que vous avez quelques exemples de la nécessité de ce rapport de force, voilà.
Moi, en vous écoutant, donc j'ai pensé à cette question du rapport de force. Ce que je pense, c'est que dans Laudato si, il y avait certes une espérance, certes une position politique du pape sur ces sujets-là, mais il y avait aussi des choses qui étaient assez précises, en fait, quasiment anticapitalistes d'ailleurs. Donc il y a quelque chose autour de structurer un rapport de force favorable donc à un nouveau modèle économique et social, mais sans doute avec des éléments qui ne sont pas du rapport de force traditionnel. Au fond, c'est ce que vous étiez en train de dire quand vous parliez, par exemple, des cercles de silence ou de l'implication de la société civile. Je rappelle qu'il n'y a pas que le pape qui dit ça. D'ailleurs, il y a aussi Bertrand Badi qui, depuis des années, au fond, nous dit les États pensent qu'ils vont construire une société internationale ou un nouvel ordre géopolitique, mais en fait ce sont les sociétés qui vont construire cette société internationale, et c'est pour cette raison même, par exemple, qu'il ne sortira rien de bon du Conseil de sécurité. Donc c'est en tout cas une réflexion qui existe depuis longtemps et avec des acteurs ou des penseurs qui n'ont rien à voir entre eux, que ce soit le pape, Bertrand Badi
qui est prof à Sciences
Po, de géopolitique. De longue date, et qui aujourd'hui, intervient aussi beaucoup, je voulais insister là-dessus, sur le Moyen-Orient. Alors, par rapport à ce que vous dites, moi, j'ai le sentiment que cette COP28 peut être porteuse d'espoir aussi parce que justement, elle n'est pas seulement sur le climat, je voulais dire ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on lit les différents articles, on nous dit Emmanuel Macron, on va en profiter pour parler de ce qui se passe en Israël, autour du Hamas, etc. Et d'une certaine manière, ce n'est donc plus une COP de bulles, comme ce que vous disiez, Laura. C'est-à-dire qu'au début, les COP, lorsqu'elles se sont déroulées, c'était des COP assez confidentielles. La première a eu lieu en 1995 en Allemagne. Et quand on discute avec des gens qui ont participé à cette première COP, ils disent on était très peu dans la salle, personne ne savait que ça existait. Et au fond, ça a duré comme ça, assez largement, jusqu'à la COP ratée de Copenhague. Donc la COP ratée de Copenhague en 2009. Et on voit bien que depuis, au fond, les choses se passent beaucoup plus sous l'œil de la société et avec une sorte d'interaction entre ce qui relève de l'ère diplomatique et ce qui relève de la société. Mais là, c'est encore différent cette année parce que c'est une COP dans laquelle on parle de climat, on parle aussi de ce qui peut se jouer au Moyen-Orient. Et donc, d'une certaine manière, on est obligé de parler de sujets qui sont extrêmement graves sur le plan géopolitique et on ne déconnecte plus les enjeux climatiques et écologiques de l'avenir du monde. Alors, je vous avais fait une différence entre le futur et l'avenir. Bon, moi, je ne sais pas si je fais la même différence, mais en tout cas, il me semble intéressant de voir que les puissances sont obligées maintenant d'associer ces enjeux climatiques, énergétiques, à quelque chose ici, là.
Quel est le contre? Comme ça, quand vous bougez la tête, on vous entend tout le temps.
D'accord. En tout cas, donc, je ne sais pas si c'est un élément donc d'espoir ou de désespoir, mais en tout cas, c'est une COP de la réalité. Et il me semble que l'espoir ou le désespoir doivent se construire par rapport à la réalité et que, en ce sens, c'est important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on peut pas penser ces éléments-là seulement par rapport au Nord. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait sur la sortie des énergies fossiles, il y a eu un grand sommet sur les questions climatiques en Afrique en septembre. Et au fond, ce qu'ont dit les différents pays d'Afrique, c'est qu'ils ont réclamé le droit au développement. Et il y a eu quand même un vrai clivage sur la question de la sortie des énergies fossiles en disant, nous, si on a des énergies fossiles dans nos pays, par exemple le Sénégal l'a dit, on peut les utiliser pour se développer. Alors, c'est différent de les utiliser pour se développer et les utiliser en termes de marché d'exportation, comme ça se passe pour Total, par exemple. Mais on est quand même confronté à ça. C'est-à-dire que pourquoi, quand vous citez Jean-Marc Jancovici qui monte les courbes inexorables, certes, mais il faut associer à Jean-Marc Jancovici aussi une prise en considération du rapport de force politique et de la capacité des pays du Nord à être moins égoïstes, à alimenter un fonds financier qui permet aux pays du Sud de se développer. Et si ça continue à augmenter inexorablement, c'est parce qu'on n'a pas changé notre mode de vie et qu'on n'a pas donné aux pays du Sud d'autres modes suffisamment d'investissement pour pouvoir se développer autrement. Donc je pense que les courbes de Jancovici, elles auraient été moins déprimantes si elles avaient été associées à un mode d'emploi politique qui aurait été moins égoïste du côté des pays du Nord et qui aurait reposé sur la capacité à reconnaître notre responsabilité historique, à transformer nos modes de vie et à investir dans les pays du Sud, à leur donner la capacité à se développer autrement.
Et donc là, on en arrive effectivement à la question sur la transformation des comportements et la question des rapports de force. Enfin, je veux dire, c'est quoi l'articulation entre...
sur la question des comportements et l'articulation collectif, individuel, collectif et politique, je pense qu'il y a quelque chose d'un... Enfin, j'aime bien décrire en fait les piliers qui sont les piliers du mouvement Laudato Si, parce que je trouve qu'ils marchent un peu pour tout le monde. Sur l'échelon individuel qu'on appelle éco-conversion, avec une dimension pour les chrétiens d'éco-spiritualité aussi, parce qu'on a besoin d'avoir un retour sur soi, une intériorité, y compris sur ces sujets-là, et on a besoin d'un ressourcement aussi. Et tout ce qu'on essaie de développer sur l'éco-spiritualité et dont parle aussi le pape François en disant de célébrer la messe dans la nature, d'être dans la grande cathédrale de la création, d'être plus en lien, à l'exemple de François d'Assise, avec les créatures, toutes les créatures. Voilà, c'est un premier pilier, le pilier individuel. Un deuxième pilier, le pilier collectif, c'est le pilier de l'action commune. Et on sait qu'on est beaucoup plus fort, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, on est beaucoup plus fort si on agit ensemble, voilà, si on va à la messe à vélo, disons, c'est bien, mais si on fait, on demande à ce qu'il y ait un arrêt de bus ou des racks à vélo devant l'église, bah, là c'est pas plus une personne, ça va être 10 personnes, 50 personnes, voilà, ça va ouvrir un horizon. Si on se bat pour qu'il y ait un composteur dans notre immeuble, ça va ouvrir un horizon pour plein de monde. Voilà, l'échelon collectif, ou si on s'engage dans une démarche église verte, peut-être que Juliette pourra en dire un mot. Voilà, on peut avoir une action collective, c'est plus difficile, hein, toujours, mais c'est essentiel. Si on n'est pas capable de partager et de réfléchir ensemble à ces choses-là, et la semaine dernière, il y avait les semaines sociales à Lyon, il y avait une chose très très belle qui était que beaucoup de gens se sont engagés à discuter avec leurs petits-enfants de questions de conversion écologique, d'eux-mêmes, de leurs pratiques, voilà, peut-être de comment ils vont vivre Noël, enfin, de ce qu'ils pensaient aussi pour la carrière, peut-être, de leurs petits-enfants, qu'est-ce qui est bien, pas bien, enfin, c'est, voilà, l'héritage, qu'est-ce que c'est l'héritage, voilà, est-ce que c'est que des biens matériels ou est-ce que c'est aussi... quelle planète on laisse. Enfin voilà, plein de réflexions intéressantes. Le troisième pilier, c'est le pilier plus politique. Le pilier de OK, on est ensemble, mais pas pour seulement pour changer ensemble, mais pour faire changer la structure. Et là, je trouve que c'est intéressant de voir que par exemple, c'est les évêques africains qui sont cités dans Laudate Deum comme parlant du fait que le changement climatique était un péché structurel. Enfin, ils utilisent cette notion de structure de péché parce qu'il y a des changements pas seulement politiques au niveau des institutions, mais aussi au niveau des décideurs d'entreprises à prendre.
Merci. En l'occurrence, vous avez parlé de composteurs. Ça, à partir du 1er janvier, les composteurs sont obligatoires.
Non, c'est la collecte des fermentescibles qui est obligatoire.
Ah,
vous n'êtes pas obligé d'installer un composteur chez vous,
mais vous
s'il y a un bac, les villes doivent mettre en place des collectes.
D'accord. Juliette ?
Alors, très bien. Oui, moi j'ai été marquée par des expériences, on va dire, alternatives de prise de décision climatique. Donc j'ai fait mes études à Sciences Po et ce qui m'a convaincue dans l'idée que c'était le bon endroit où étudier pour agir sur les enjeux écologiques, c'était un documentaire sur des étudiants sous la houlette de Bruno Latour qui rejouaient la COP ratée de Copenhague et elle réussissait à aboutir à un accord contraignant et à la hauteur. Et donc des étudiants étaient capables de faire ce que des négociateurs aguerris ne faisaient pas. Alors peut-être que, effectivement, je sais pas, je me souviens plus dans le documentaire s'il y avait... il y avait aussi des gens qui avaient le rôle de lobby et de pression. Peut-être que c'était pas le cas. Et l'autre,
ils engageaient moins de choses.
Et faudrait le re-regarder. Et l'autre expérience qui m'a marquée, c'est la Convention citoyenne pour le climat, où des citoyens qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose, au bout de quelques mois de travaux, ont pris des décisions très ambitieuses et complètement revues à la baisse pour, il me semble, baisser de 40% les émissions de la France de 90 par voire 2030, c'est ça les chiffres. Et donc ça donne pas trop confiance en la capacité de nos systèmes politiques, que ce soit des démocraties représentatives ou autres, de nos systèmes de négociation internationale pour refléter en fait ce à quoi les sociétés sont prêtes. Donc dans quel interstice on peut se faufiler, à quel étage on peut à quel endroit on peut agir pour arriver à des résultats aussi à la hauteur de l'enjeu et mis en place.
Oui.
D'abord, sur ce que vous avez regardé à Sciences Po, Bruno Latour, qui effectivement a fait rejouer beaucoup à ses étudiants les COP, donc chacun jouait un rôle, etc. C'est assez intéressant. Après, je rappellerai une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment d'accord contraignant. C'est-à-dire que Il a inventé quelque chose. Pour le coup, c'est une fiction, c'est un rêve, c'est une espérance. Je ne sais pas comment le qualifier. C'est un avenir. Mais en tout cas, l'accord de Paris, il y a eu de longues discussions pour savoir s'il était contraignant ou pas. Il est clair qu'il n'était pas contraignant. En revanche, il est aussi clair que il y a eu des procès climatiques nationaux à l'échelle nationale dans lesquels le Conseil d'État, ça vient d'arriver en Belgique, il y a eu ça également aux Pays-Bas, s'est servi de la référence à l'accord de Paris pour prendre une décision de justice à l'échelle nationale qui s'impose à l'État. Mais, et dans des États comme la Belgique ou les Pays-Bas, il y avait même des obligations en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas en France. Après, pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Parce que il y a aussi, tout à l'heure on a commencé à parler de ce qui pourrait se passer à l'échelle européenne, aux élections européennes, il y a aussi maintenant des gens qui disent que parce qu'il y a eu ces procès climatiques aux Pays-Bas, c'est ça qui a permis l'émergence d'acteurs climato-sceptiques, comme le parti agrarien, enfin le parti des agriculteurs ouvertement climato-sceptiques, ou en tout cas contre la transition agricole qui a eu un très bon résultat aux dernières élections aux Pays-Bas. Donc, moi, ce qui me semble important pour qu'on puisse avoir un panorama, c'est, je vous invite à lire un livre remarquable, « Gouverner le climat » d'Ami Dahan et Stéphane Écoute, qui était paru en 2015, au moment de l'accord de Paris, qui disait « On peut discuter à l'échelle internationale, gouverner le climat », paru aux presses de Sciences Po. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut discuter à l'échelle internationale, mais pourquoi est-ce que, au fond, l'accord de Paris est une réussite? Parce qu'il y a eu des contributions nationales présentées par chaque État, et qui, comme je le dis, aboutissaient à 3,8. Mais ensuite, chaque État, sur la base de l'accord, va rentrer, chaque représentant va rentrer dans son pays, et face à sa société, et face aux acteurs qui font la vie politique, économique et sociale, il va voir comment est-ce qu'il met en musique les engagements qui ont été pris à l'échelle internationale. Donc on peut pas déconnecter, ou on peut le faire l'espace d'un cours à Sciences Po, on peut pas déconnecter ce qui est décidé à l'échelle internationale ensuite de la responsabilité qu'on a dans l'échelle, ce que je veux dire, c'est à l'échelle institutionnelle par rapport à ce que vous dites. Et donc effectivement, ça peut être un peu déprimant de se dire on peut décider de ça, mais ensuite il faudra retomber sur ses pieds en termes d'organisation économique, sociale, de fiscalité, d'engagement et de régulation. Et au fond, aux élections, est-ce que les électeurs vont décider d'encourager ceux qui sont ambitieux sur le plan climatique? Mais on ne peut pas non plus s'abstraire du fait qu'on a un calendrier institutionnel, même si ce qui est important, c'est d'organiser une vie démocratique intense qui fasse qu'au moment des élections, les électeurs aient le choix et des choix qui leur permettent de choisir ceux qui sont les plus ambitieux sur le plan écologique. Mais moi, je peux pas... Moi qui ai fait de la politique, je pense que ce qui est important, c'est surtout lorsqu'on est convaincu, d'aller convaincre les électeurs. C'est-à-dire que, au fond, la difficulté qu'on a, nous, parce que nous sommes convaincus, là, dans la salle, c'est aussi d'aller nous confronter à ceux qui vont nous dire « Mais moi, est-ce que j'ai les moyens d'avoir une alimentation bio? Est-ce que, si j'habite une passoire thermique, est-ce que j'ai les moyens de la rénover ?» L'écologie populaire, elle reste à construire. Et ça... c'est d'une certaine manière notre échec à tous, peut-être, de pas avoir suffisamment pris en considération dans le partage des richesses, dans la redistribution, ce genre de choses. Et par rapport à ce que vous dites sur la question de la Convention citoyenne pour le climat, moi je suis plus critique. C'est une discussion, ça peut être une controverse. C'est-à-dire que quand on lit le rapport de la Convention citoyenne pour le climat, effectivement, il a un haut niveau d'ambition. En revanche, le mandat était dans un esprit de justice sociale, si je ne me trompe pas, et ce point a été laissé complètement de côté. C'est pas de la faute des citoyens, mais en tout cas, dans les propositions qui ont été discutées, l'articulation entre le social et l'écologique n'a jamais été privilégiée. En revanche, les personnes qui avaient été tirées au sort représentaient d'une manière, ça a été dit d'ailleurs, au mieux, si je puis dire, la société française avec des éléments de territoire, des éléments de revenus, d'inégalités, etc. Mais en revanche, la question de l'articulation entre le social et l'écologique n'a pas été suffisamment présente. Et puis, je trouve aussi que lorsque le président de la République a dit qu'il allait mettre en application les propositions sans filtre, moi, je pense que c'était absurde. C'est-à-dire que on est dans une démocratie institutionnelle et qu'il aurait fallu associer bien davantage en amont, par exemple, les parlementaires, de façon à ce qu'ils prennent en considération ces propositions écologiques. Du coup, Je trouve que la Convention citoyenne pour le climat a été une magnifique réussite sur l'acculturation, le fait que ceux qui en sont sortis beaucoup plus écologistes que lorsqu'ils y étaient entrés. Mais je m'attendais à l'échec, au ratage institutionnel. Du coup, j'ai pas d'éléments d'espérance évident, si ce n'est de vous dire qu'à votre génération, quand je discute avec mes étudiants, j'observe que ils sont rares ceux qui ont envie de monter une liste aux élections. Ils sont rares ceux qui pensent que le salut entre guillemets viendra des élections. Et je trouve que c'est dommage parce que il faut pas oublier que aux élections, on donne le pouvoir sur des pouvoirs extrêmement importants à des personnes qui souvent sont assez indifférents ou ignorants sur l'aspect écologique. Comment est-ce qu'on fait pour s'impliquer dans le champ politique institutionnel? C'est une question qui nous est posée à tous et particulièrement à votre génération.
Je vais réagir.
Non, bah si Laura veut compléter sur comment agir quand on est déçu par ou les négociations ou les propositions politiques qui nous ont faites, mais j'entends l'appel à aussi s'impliquer en politique et à faire du travail ingrat. Oui.
Laura, on va passer la parole à la salle après.
Peut-être quelque chose qui me semblait intéressant, c'est d'être arrivé maintenant à un objectif de utiliser le mot transition juste. Je trouve que qu'on est en train de viser juste en c'est le cas de le dire en utilisant cet objectif là et que c'est aussi ce que dit Laudato aussi en disant tout est lié, cri des pauvres et cri de la terre doivent aller de pair, et le fait que le Secours catholique, ATD Quart-Monde se mettent très fortement sur les questions écologiques, ça aide à lier les deux questions. On voit par exemple dans le milieu agricole aussi, même le milieu agricole chrétien qui pouvait avoir des résistances il y a quelques années. Eh bien, ils sont partie prenante et c'est moi ça voilà ça me donne beaucoup d'espoir le fait de voir qu'il y a des acteurs nouveaux et que ces questions de comment est-ce que la transition peut être juste. Ça va se faire avec les gens qui ont l'habitude de travailler avec les plus pauvres ou les plus pauvres d'entre nous.
Il a fallu passer par les bonnets rouges en Bretagne, contre les portiques et sur les routes et les gilets jaunes ensuite.
Ces travaux-là avaient commencé avant, mais bon, ils étaient pas encore complètement aboutis.
Oui, ce que je veux dire, c'est que dans l'opinion publique, cette idée de transition juste, le fait que ça s'impose, il a fallu passer par les bonnets rouges et les gilets jaunes.
Oui, et aussi quelque chose que je trouve très intéressant, c'est le fait que les sciences sociales s'y mettent aussi. Qu'on a arrêté de laisser le climat aux ingénieurs parce qu'à un moment donné c'est utile, c'est important, mais c'est pas tout, et pour l'adhésion, pour une adhésion plus large, et aussi pour comprendre comment on change. Je me souviens, il y avait une étude très intéressante par exemple sur comment parler climat pour que les gens adhèrent et aient envie de s'intéresser au sujet. Et par exemple, cette étude avait montré que les gens qui étaient novices, disons, qui découvraient le sujet, ils allaient être plus sensibles aux solutions, d'où le grand succès du film Demain, par exemple. Des pistes d'espoir, alors que les gens déjà un peu engagés, ils allaient être très sensibles aux catastrophes, aux chiffres, etc. Mais voilà, on parle pas de la même façon selon l'auditeur. Vous connaissez ça en tant que journaliste, mais je pense que ça va beaucoup nous aider. Pour le moment, je vois beaucoup de contributions des sciences sociales plutôt en critique, mais je pense qu'il y a une phase de proposition aussi qui va nous être bien utile.
Des questions dans la salle? Monsieur là-bas,
je voudrais me permettre de poser pour une fois une question, et revenir sur le processus même de la COP pour savoir si, au niveau collectif mondial, ce processus peut nous permettre d'avancer ou si c'est une sorte de farce collective qui se met en place. Là, on a beaucoup vu les sujets nationaux. Qu'en est-il du mouvement collectif international?
C'est pas une farce, mais et ça a été rappelé par Vincent, l'accord, la déclaration finale nous dira beaucoup de choses sur ce qu'on appelait le rapport de force. Et puis ce qui est intéressant, c'est à chaque COP, les coalitions, et on peut se rappeler par exemple qu'à la COP 21, il y avait une vraie surprise sur le fait que les pays africains ou les pays d'Amérique latine avaient réussi à former des vraies coalitions à défendre leurs intérêts. On peut considérer que la façon dont l'Union européenne, qui est très moteur en fait sur ces sujets-là, réussira à sortir en bonne visibilité de cette COP est important. Après, on peut aussi dire une chose, c'est que l'Union européenne est arrivée là-bas avec, est arrivée à Dubaï avec une difficulté qui est que pour les élections qui s'annoncent, comme je le disais tout à l'heure, il y a une montée en puissance. Laura a parlé du ministre de l'Environnement italien. Il faut quand même dire que c'est un gouvernement, fasciste. Je préfère que ce soit plutôt une Italienne qui le dise, qui est au pouvoir et que donc ce fascisme, il s'étend sous différentes, avec des visages nationaux différents. Mais enfin, le fascisme et le climato-scepticisme vont de pair. Donc c'est compliqué pour l'Europe, même si elle continue à faire bonne figure. Ce qui est intéressant aussi, c'est la question, par exemple, des groupes d'entreprises ou des groupes d'acteurs privés, on va dire les entreprises et les banques, par rapport à ce que disait Laura sur le renoncement. Il y a des renoncements, mais enfin, la vérité, c'est que, bon, ça s'est dit beaucoup par les ONG, et quand on regarde les choses dans le détail, il y a quand même encore un financement très massif des projets sur les hydrocarbures. Donc, vous en sortirez, ça ne sera pas une farce, mais il faudra que vous regardiez les coalitions et pas seulement la déclaration finale. Et les coalitions, par exemple, sur le renouvelable, les coalitions sur la sortie des fossiles, les coalitions sur l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, je pense que c'est puissant. Parce que ça reste un point très compliqué. Parce que dès qu'on fait le lien avec l'alimentation, la subsistance, l'agriculture, là, il y a quelque chose de très vital qui se joue. Et puis, est-ce que le sujet, c'est que vous ne pouvez pas juger d'une COP juste après la COP? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des contributions, ce que je disais tout à l'heure, pour la COP 21, qu'est-ce qui se passe dans les contributions nationales, façon dont on atterrit, d'une certaine manière, comme aurait dit Bruno Latour, c'est un point important. Donc c'est pas une farce, non. Mais ce n'est pas, c'est comme, il n'y a pas d'homme providentiel ou de femme providentielle sur l'écologie, il n'y a pas un événement providentiel sur l'écologie. On n'a rien de providentiel, une COP. En revanche, ça dit des choses sur le principe de réalité.
Laura,
juste très brièvement, je voulais ajouter une petite chose qui était qu'on n'a pas d'alternative en fait, et que le multilatéralisme c'est quand même encore ce qu'on fait de mieux quoi. Enfin, donc il faut que ça marche. Je pense qu'il faut vraiment pas qu'on dénigre le multilatéralisme et les COP. On peut en avoir des espérances modérées et considérer qu'il faut beaucoup de rapports de force à côté, il faut beaucoup d'actions à côté, il faut beaucoup d'alternatives à côté, que ça ne suffit pas. Mais plus de COP, ça serait catastrophique. Et avant Paris, on pensait que c'était désespéré. Enfin, quand même, Paris, on n'y croyait pas beaucoup. Et c'était le pape l'a dit d'ailleurs, c'était une des raisons pour laquelle cette encyclique est sortie 6 mois avant Paris. Elle était dans les tuyaux, mais c'était aussi dans le but d'influencer Paris. Et c'est quand même c'est quand même essentiel. Peut-être la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur le sud. Je pense qu'on a changé quand même de vision et que des représentants de pays du Sud, le mouvement Laudato Si a été créé dans le Sud global. Le mouvement qui porte l'encyclique sur l'écologie, elle vient des Philippines, elle vient d'Amérique du Sud, elle vient pas d'Europe. Elle vient pas des États-Unis, donc c'est le moi quand je regarde, et c'est la raison pour laquelle je suis allée travailler au mouvement Laudato Si, qui me fascine depuis le début. C'est de voir l'énergie et la jeunesse. Les animateurs, ils ont tous moins de 35 ans ils prennent tous des risques. Même dans l'église, il y a des évêques qui sont menacés de mort. Enfin, il y a une vitalité au sens que c'est vital, ces questions-là. À un moment donné, quand dans votre vie, on a hébergé il y a 6 mois une militante ougandaise qui militait sur l'oléoduc ICOP de Total en Ouganda, et elle disait moi j'ai à choisir entre la saison où il fait très très chaud, et finalement ça va, c'est insupportable mais ça va, et la saison où on est inondé et il faut monter les choses parce que chez nous il y a 50 cm d'eau. L'autre saison, c'est la saison où on monte les canapés, on monte les livres, on monte tout, et on sait qu'il y a des voisins qui vont mourir. À ce moment-là, le climat pour elle, c'était pas une option, c'était pas un truc à faire le dimanche si j'ai du temps, quoi, c'est vital. Donc et ça, je le vois, mais vraiment viscéralement chez mes. Et quand on fait des formations d'animateurs Laudato Si, c'est francophone, donc il y a pas mal de Français d'Haïti, du Liban, de RDC, enfin d'Afrique. On est ensemble. Et voilà, on a des gens confrontés à des situations au quotidien. On peut se dire, mais comment ils vont s'occuper de planter des petites plantes ou de trier des déchets alors qu'il y a des gens avec les machettes dehors ou qui sont en guerre civile? Eh ben, ils le font. Donc moi, ça, je me dis, mais franchement, n'ayons pas peur, allons-y. Hein, c'est pas grand-chose, des lacrymos ou des pétitions ou avoir l'air ridicule vis-à-vis de ses voisins. Voilà. Petit cri sur le. Et je vois que dans votre numéro sur les héritières de Greta Thunberg, elles sont en grande partie dans des pays du Sud. Donc ce Sud global, il n'est pas en résistance, il est aussi en demande de politique climatique.
Monsieur.
Merci. Quand vous parlez des conséquences des moyens de production d'énergie sur le climat, vous n'évoquez jamais le problème du nucléaire. Or, le nucléaire est beaucoup plus propre que n'importe quel autre moyen de production d'énergie.
Qui veut répondre ?
Je ne crois pas que qui que ce soit ici ait évité de parler du nucléaire, c'est juste que c'était pas le centre des COP de manière générale. Il se trouve qu'effectivement, à Dubaï, à l'initiative beaucoup de la France, il y a une coalition qui s'est formée autour du nucléaire avec l'idée qu'on pourrait multiplier par 3 les capacités nucléaires à l'échelle mondiale d'ici 2050. C'est une manière de faire une sorte de lien avec ce qui se dit sur le renouvelable, où l'idée est de multiplier par 3 d'ici 2030. Et ce qui est intéressant sur le nucléaire, c'est que en France comme en Allemagne, dans les années 70, au moment où se construisent les capacités nucléaires, les mouvements écologistes sont antinucléaires. Ils sont antinucléaires d'abord, je crois, à cause de la méthode, c'est-à-dire qu'il y a eu l'idée qu'on installait des réacteurs, des centrales, sans en avoir parlé à ceux qui habitaient les territoires, et donc ce sont des luttes territoriales. Il y en a eu de part et d'autre, sur Fessenheim et de l'autre côté de la frontière. Je vais parler un petit peu du nucléaire, parce que vous me dites qu'on n'en a pas parlé. À l'échelle européenne, le récent débat au moment de la taxonomie verte entre l'Allemagne et la France a été un débat extrêmement conflictuel, puisque les Allemands, l'ensemble du gouvernement allemand, qui est un gouvernement de coalition, comme vous le savez sans doute, dans lequel les Verts ont une place importante, mais qui est dirigé par un socialiste et puis qui comprend aussi les libéraux, l'ensemble du gouvernement allemand refusait qu'on qualifie de verte l'énergie nucléaire. Et la France a obtenu que l'énergie nucléaire soit qualifiée d'énergie de transition verte. Et les Allemands ont obtenu que le gaz soit qualifié d'énergie de transition verte. Donc ça a été une discussion, je dirais, c'est pas marchand de tapis, mais au fond ça correspond à nos manières respectives de produire de l'énergie, de l'électricité, sachant qu'aujourd'hui les Allemands ont un énorme problème qui est de sortir du lignite, de sortir du charbon, et que un certain nombre de voix s'élèvent en Allemagne pour dire qu'il faut revenir sur l'abandon du nucléaire qui a été organisé à la fois par le SPD, les socialistes et les Verts, et puis ensuite repris par Angela Merkel après la catastrophe de Fukushima au Japon. Donc on peut dire qu'on a eu des trajectoires très divergentes entre l'Allemagne et la France, et qu'aujourd'hui, l'état d'urgence climatique dont on vient de parler donne plutôt raison à la France, qui a maintenu ses capacités nucléaires et qui veut, à l'échelle mondiale, se faire aujourd'hui le centre du nucléaire aussi, pour des raisons d'exportation, etc. Alors après, moi je suis, comme vous l'avez compris, pas anti-nucléaire, mais je pense qu'il n'y a pas d'énergie magique. C'est-à-dire que lorsque la Cour des comptes, au début des années 2010, commence à produire des rapports sur le coût du nucléaire, ce qu'elle montre, c'est que produire du nucléaire, ça pose des questions assurantielles sur le risque, ça pose des questions de déchets, ça pose des questions de dérapage des coûts lorsqu'on a des chantiers comme celui de l'EPR. Donc on est confronté sur la question de l'énergie au principe de réalité, encore une fois, qui est que il faut à la fois faire du plus de renouvelables et plus de nucléaire, sans doute. Et ça, il y a eu un rapport de RTE qui l'a dit il y a déjà 2 ans. Hein. Donc on n'est plus dans l'antagonisme. Mais peut-être que cette COP sera une des COP où on reconnaîtra qu'à l'échelle mondiale, le nucléaire peut être une solution dans certains pays. Sûrement pas pour l'Afrique, sans doute pour l'Inde. C'est déjà le cas en Chine, qui a des capacités nucléaires importantes, qui par ailleurs continue à avoir un gros problème avec le charbon. Donc le sujet, c'est plutôt qu'on fasse des mix, pour pas être trop long, pardon, des mix énergétiques, qui soient des mix le moins carbonés possible. Et c'est vrai que sur le mix français, on est très bien placé.
Vous voulez, monsieur, prolonger la question ?
Je trouve que votre réponse est un peu spécieuse. On ferait bien de faire un effort monumental pour que le nucléaire se développe, hein, et qu'on crée des COP pour étudier comment le nucléaire pourrait apporter de l'énergie propre au niveau mondial.
Un désaccord là-dessus entre nous.
Et si je peux me permettre juste d'ajouter, la discussion sur le système énergétique est importante et bien sûr nécessaire, mais elle ne doit pas nous détourner aussi du fait qu'il faut changer nos styles de vie, notamment dans les pays du Nord, et qu'on va devoir aller vers beaucoup plus de sobriété, et ça passe aussi par renoncer à certains usages, et les deux vont de pair. Alors, la question, du coup, votre question est légitime, mais elle ne doit pas nous détourner, et c'est un peu le problème de toutes les solutions technologiques, pardon, que ce soit de capture de carbone, ou bien le nucléaire va nous sauver. Au fait, le nucléaire va peut-être être une partie de la solution, mais il va aussi falloir juste remettre en question notre style de vie, notamment en Europe et aux États-Unis.
Madame.
Je repense à ce que Juliette.
Mettez le micro très proche.
Je repense à ce que Juliette a dit et ce que vous avez dit par rapport à vos étudiants qui ne veulent pas s'engager en politique. Je pense que c'est une question de temps. On est dans le réchauffement climatique, on n'a plus le temps d'attendre et d'attendre qu'il y ait une mobilisation internationale qui se mette en route. On est dans une urgence, c'est pour ça que les jeunes se décident pour la désobéissance civile, pour faire des coups de com' et essayer de faire la pression sur les politiques. Mais ils ont perdu espoir dans les politiques. Et vous avez dit que vous travaillez aussi à Emmaüs avec des classes populaires. Je pense que les classes populaires aussi ont perdu confiance dans les politiques. Elles se sentent abandonnées. Et j'aimerais bien que vous reprécisiez, parce que vous avez dit que vous travaillez avec Emmaüs, que vous nous reparliez de cette expérience, s'il vous plaît.
Écoutez, j'y suis seulement depuis quelques semaines, donc je ne vais pas avoir la prétention de parler. Mais en revanche, ce qui me semble très intéressant, c'est que quand on regarde toute l'histoire du mouvement Emmaüs, c'est que dès les années 50, au fond, il y a une mise en place de l'économie circulaire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Et je trouve que le problème sur ces enjeux écologiques, c'est que souvent on nomme de manière un peu compliquée des choses qui se pratiquaient, et toute la question pour ce mouvement aujourd'hui, c'est d'une certaine manière d'être capable d'intervenir, je trouve, dans le débat. Moi, c'est pour ça que j'ai eu envie d'y aller, d'intervenir dans le débat public à hauteur de ce qui se fait et pas seulement que les discours sur l'écologie se déroulent de manière un peu stratosphérique et sans y intégrer justement... Vous savez, le débat sur la sobriété qu'on a commencé à voir, on a l'impression qu'il y a sobriété choisie, sobriété subie, mais il y a aussi ceux qui pratiquent la sobriété à leur échelle d'une manière, je trouve, assez remarquable sans qu'on en parle. Et ce qu'on observe aussi très souvent sur la question écologique, tout à l'heure Vincent parlait des bonnets rouges et des gilets jaunes, la révolte des gilets jaunes, des chercheurs comme Magali de la Souda l'ont bien montré, c'est pas une révolte anti-écologique, c'est une révolte évidemment du niveau de vie, etc. Mais c'est aussi une révolte contre la méthode et la façon dont les choses tombent du ciel et dont on d'une certaine manière on dit ben au fond, vous y connaissez pas grand-chose sur l'écologie. On va vous montrer comment faire. On va faire une taxe carbone, etc. Donc la façon dont on, moi, ce qui m'intéresse chez Emmaüs, c'est la façon dont en discutant avec les uns et les autres, je m'aperçois qu'il y a des savoir-faire que moi je n'ai pas sur une sorte d'écologie quotidienne, sur une sobriété quotidienne. Après, comment est-ce qu'on fait pour que cette exemplarité soit prise en considération sans pour autant, j'en reviens à ça, le rapport de force. C'est pas, il faut qu'on change nos comportements, mais enfin, le sujet, c'est quand même les grands acteurs économiques à l'échelle mondiale, et au fond, peut-être que les jeunes ont du mal à s'y retrouver aussi parce qu'ils pensent que à l'échelle institutionnelle, la régulation ne sera pas faite dans le bon sens, et qu'on ne peut plus y croire. Mais qu'ils ne pensent pas que l'État, c'est eux, que les institutions, c'est nous, c'est un problème, et ça montre une grande ambivalence, je trouve, dans une démocratie, de ne pas penser que nos institutions sont les nôtres, justement.
Oui. Alors,
je serais moins pessimiste sur les jeunes générations, parce que je trouve que souvent, ils ciblent juste, et que, en fait, les élus, ils font quand même beaucoup ce que les gens autour d'eux leur demandent de faire. Donc, il y a le programme, mais bon, le programme, on l'a pas tous les jours placardé devant soi. Par contre, on est soumis, enfin, je dis on, j'ai pas été élue, mais j'ai travaillé 15 ans pour des élus pour lesquels j'ai grande estime, et qui étaient très courageux, mais ils sont perméables à l'air du temps, hein, et ils sont perméables aux demandes qui leur sont faites. Donc si, à un moment donné, ce que j'aime bien dans les mouvements actuels, c'est que ils ciblent des banques, ils ciblent des élus, ils ciblent des décideurs de manière assez claire, avec des demandes claires. Et ça, c'est faire de la politique. Alors effectivement, c'est pas être élu, et donc il y a cette question de responsabilité, d'engagement un peu plus sur la durée, qui est quand même autre chose. Mais c'est une façon, à mon avis, assez maligne de faire de la politique.
Oui, mais il y a le sujet de faire la loi quand même. Hein. Faire la loi et être au gouvernement, c'est voilà. Je pense qu'il y a quelque chose autour de cet exercice de la responsabilité exécutive, en fait.
Oui, bonsoir. Les trois plus grands pollueurs mondiaux sont quand même l'Europe, les États-Unis et la Chine. Et ces trois pays ont en commun d'être une population vieillissante, je ne parle pas du personnel politique correspondant. Est-ce que vous ne pensez pas que la transition, c'est pas forcément une affaire de vieux aujourd'hui ? Et est-ce que le fait que cette affaire est gérée quand même par des populations vieillissantes de manière accélérée et durablement, semble-t-il, est-ce que c'est pas une grande partie du problème ?
On peut parler tout à l'heure. Oui, je pense que ça fait partie du sujet. Et quand on voit les votes aussi des différentes classes d'âge, les questions de l'avenir, quand l'avenir est court, des fois elles sont moins importantes. Sauf si on discute et qu'on écoute et qu'on est en dialogue avec des plus jeunes générations. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été
Est-ce que vous avez le sentiment que dans les pays du Sud, la jeune génération, dans les pays du Sud, il y a une sensibilisation à ces questions ? Parce qu'effectivement, on dit que 50%, au Nigeria, peut-être 30-50% de la population a moins de 15 ans. Est-ce que ces personnes sont sensibilisées à ces questions? Ou est-ce que l'impératif de développement, enfin, l'aspiration au développement est pas plus forte?
J'ai pas d'études statistiques, je le vois dans les gens qui adhèrent, qui militent, qui s'inscrivent, c'est très net. Mais bon, ça c'est pas une étude démographique.
Mais ce qu'il y a de clair, c'est que en France, dans notre système de grandes écoles, il y a des bifurqueurs, il y a des veilles écologiques, etc. Mais il y a aussi quand même encore une majorité d'étudiants qui ont envie de, enfin, qui sont pas mobilisés. Donc, faut pas non plus décrire la. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait, que la jeunesse c'est juste un état. Mais en tout cas, la question, et il y a beaucoup de jeunes qui votent pour le Rassemblement National. Donc, certes, nous avons des décideurs vieillissants et on est une société vieillissante, mais la jeunesse n'est pas unanimement écologiste. Et ensuite, et encore moins dans les pays du Sud, le droit au développement, le droit à un avenir, etc. En revanche, partager la décision, moi je trouve qu'il y a quand même des choses qui devraient être faites, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il devrait y avoir une sorte de conseiller jeune, engagé écologiquement auprès de chaque, par exemple, moi je connais bien l'État, directeur d'administration, qui est ce genre de choses, ça créerait au moins de la transition, du changement et une sorte... Il faut arrêter en tout cas de dire aux jeunes « attends 20 ans avant de pouvoir exercer des responsabilités ». Dans la situation dans laquelle on est, avec l'accélération des dérèglements, on ne peut plus ne pas écouter ce qui monte de cette génération engagée. Simplement, ce n'est pas unanime au sein de la jeunesse. Par exemple, bon, moi je vois bien, je donne une académie politique dans une école de commerce. L'académie qui a le plus de succès reste l'académie finance. Et ce n'est pas pour faire de la finance verte. Donc on est dans cette situation où on met beaucoup l'accent sur ceux qui sont en train de changer, qui sont bifurqueurs, qui sont... Mais c'est une avant-garde, comme le disait Serge Moscovici, d'ailleurs il faut une avant-garde. Mais comment l'avant-garde va réussir à faire basculer la majorité, ça reste une question, me semble-t-il, qui est devant nous.
Bonsoir. J'ai une question. Comment est-ce qu'on fait pour accorder le même niveau d'attention à tous les sujets? On est très focalisé sur la COP28 en ce moment. J'ai l'impression que régulièrement, on accorde moins d'attention aux autres COP, aux COP sur la biodiversité, aux COP sur la désertification, alors que c'est des sujets qui sont intimement liés et qu'on sait qu'on est censé reconnaître que tout est lié. Et de ce que vous avez vu, de ce que vous avez pensé, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer qu'on puisse réussir à articuler tous ces sujets et avoir le même soutien de la société, rapport de force?
Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, au sommet de Rio, en 1992, il y a trois conventions. Comme vous le dites, il y a la désertification, il y a la biodiversité, et il y a la question climatique. Et pourquoi est-ce que le climat prend le pas? Parce que c'est porté par les pays du Nord et sur la question de l'atténuation. Alors, ce qu'on a observé ces dernières années, c'est quand même un effet de rattrapage très rapide sur la question de la biodiversité, avec l'équivalent donc des rapports du GIEC autour de l'IPBES. Et ce qui est très intéressant quand on lit les rapports de l'IPBES, c'est que là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de relations entre ce qui est décrit et les savoirs, comme on dit, vernaculaire, en tout cas ce que fait la société sur ces questions-là, sans doute parce que les enjeux de biodiversité, de même que les sciences citoyennes sont beaucoup sur les enjeux de biodiversité, il y a une appréhension de la société sur ces questions-là qui est plus concrète, plus traditionnelle, si je puis dire. Donc c'est intéressant de voir comment le milieu scientifique et la société sur ces questions-là se rejoignent beaucoup plus vite que sur les questions climatiques. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il ne faut pas laisser ça aux ingénieurs. C'est pas d'ailleurs, c'est Laura qui a dit ça. C'est pas d'ailleurs seulement les ingénieurs. C'est aussi, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ce sont les chercheurs aussi. C'est pas seulement. Donc, qui aujourd'hui reviennent. Mais il y a une technicité des questions climatiques qui fait que c'est plus compliqué, sans doute, de s'en saisir que des questions de biodiversité. Puis, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on fait le lien entre la biodiversité et les questions climatiques, mais on ne fait pas encore, on parle encore peu de désertification. Sauf que avec ce qui nous arrive sur l'eau et la montée des vagues de sécheresse, d'une certaine manière, il n'y a pas de négociation internationale, mais on parle de désertification quotidiennement, me semble-t-il. Donc il y a des effets de rattrapage, et de toute façon, ce n'est qu'en faisant l'interaction entre ces sujets qu'on arrivera à imaginer une autre manière d'être au monde, me semble-t-il.
Oui, bonsoir. Moi, j'aurais plutôt évoqué la justice climatique et la notion d'écocide. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, les compagnies pétrolières, qui sont conscientes que depuis les années 70, leurs activités sont nuisibles et contribuent à la situation catastrophique dans laquelle on est, est-ce qu'elles auront un jour des comptes à rendre? Est-ce qu'elles devront indemniser les États qui vont disparaître, les populations qui sont exposées, vulnérables? Est-ce qu'ils vont rendre des comptes un jour ou l'autre? Qui pourra leur imposer de rendre des comptes? Je pense à l'affaire de Total en Ouganda et au Kenya. Les ONG du Sud, donc du Kenya et de l'Ouganda, avaient attaqué Total ici en France pour ce projet climaticide. La justice française, donc au niveau national, s'est déclarée incompétente. Pourquoi? Est-ce qu'elle considérerait que ces sociétés du Sud n'avaient pas intérêt à agir? Pourquoi la justice française s'est déclarée incompétente? La question de l'écocide, c'est très important. Il faut que les compagnies rendent des comptes.
Le procès en question, c'était en vertu de la loi sur le devoir de vigilance. Qui n'existait que en France à ce moment-là. Elle est en train d'être adoptée au niveau européen. Moi, j'ose espérer que ça se passerait mieux avec une loi européenne, parce que il y a toujours la crainte de se dire en France, si on est trop sévère, on va être pénalisé par rapport aux autres. C'est à mon avis plutôt un facteur d'espoir, le fait que l'Europe s'en saisisse fortement et qu'il y ait bientôt une loi européenne sur ce sujet-là. Qui du coup rend responsable, c'était un des sujets du Grenelle aussi, rendre responsable les multinationales pour les actions de leurs filiales, parce que finalement souvent elles se cachent en disant c'est pas moi, c'est la compagnie locale, mais bon, c'est leur filiale en fait.
La directive européenne est en phase finale de négociation là.
Oui.
Aussi dire une chose par rapport à votre indignation. C'est qu'il y a aussi la question des gouvernements locaux, c'est-à-dire que dans le sommet qui a eu lieu au Kenya, il y a eu des vraies oppositions entre les différents gouvernements des pays africains par rapport à la question des fossiles. C'est-à-dire que c'est une source de devise, c'est une source, c'est une source entre guillemets de développement. Et attaquer Total, c'est une chose, mais l'enjeu, c'est aussi comment est-ce que ça se passe entre les gouvernements et les populations sur place. On peut pas, nous, se voiler la face sur notre responsabilité, mais c'est un sujet aussi sur ce qui se passe en Ouganda.
Il y a plein d'exemples.
En fait, je pense comme vous, simplement... j'observe que la structuration du pouvoir reste encore celle des gouvernements nationaux.
Ouais. Allez-y, oui. Éloi.
Moi, je trouve que ça pose des questions beaucoup, beaucoup plus structurelles sur la manière dont fonctionne l'économie aujourd'hui. Et notamment comment les décisions sont prises, les décisions d'investissement. Et aujourd'hui, enfin, on est dans une situation de manière structurelle où les décisions sont prises par les acteurs privés et par les personnes qui détiennent ces entreprises, donc en fait les actionnaires, et tant qu'il n'y aura pas des réglementations leur empêcheront de prendre les décisions, les pires décisions pour l'humanité, mais les meilleures pour maximiser leurs profits, les actionnaires sont aujourd'hui juste poussés au vice. Enfin, donc j'ai pas de solution à ça, mais structurellement, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu à mettre plus de démocratie, ou que les décisions économiques ne soient pas hors de la démocratie, et qu'on décide un petit peu de réfléchir collectivement à ce qu'on a envie de produire, ce qu'on n'a pas envie de produire, les choix d'investissement qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais là, ça remet en cause plus structurellement le système économique.
Juliette. Des questions encore? Non.
Une question un peu provocante. Si nous sommes dans une course contre le temps, on voit que les pays qui vont le plus rapidement pour prendre des bonnes mesures sont des régimes autoritaires, voire des dictatures. Regardez ce qui vient de se faire à Pékin, ce qui se fait dans certains pays du Golfe. Faut-il appeler à la dictature pour une transformation écologique rapide?
Est-ce qu'on peut avoir des exemples de pays autoritaires qui font ce qu'il faut faire pour le climat, la biodiversité et autres?
Pékin a décarboné ses transports à toute vitesse.
La ville de Pékin.
Voilà, et la Chine.
Et le pays continue à ouvrir des centrales à charbon chaque semaine.
Tout en ayant des paradoxes. Les Émirats arabes unis ont pris aussi des mesures drastiques en moins d'un an pour faire. Non, c'est évidemment une question provocante, mais est-ce que la démocratie n'est pas un frein à l'action rapide sur la transformation écologique?
Qu'est-ce qui veut réagir à ça?
C'est une question, Olivier pose cette question en pensant être très provocateur, mais c'est une question en fait qui existe dans tous les débats sur l'écologie, c'est-à-dire que la question de est-ce que la démocratie c'est pas trop compliqué par rapport à l'urgence, elle vient toujours, et effectivement je pense que vous avez complètement raison, il n'y a pas d'exemple, enfin en général les dictateurs sont climato-sceptiques, hein, donc voilà, Bolsonaro, le nouvel élu argentin, Donald Trump, qui est pas un dictateur, mais enfin qui avait quand même des tendances, en tout cas pas très démocratiques. Donc, en revanche, ça nous amène à nous interroger sur qu'est-ce que c'est que la démocratie et à nous dire que c'est pas seulement une vie démocratique qui conduise à ce que les objectifs écologiques soient pris en considération. C'est pas seulement une vie où les citoyens votent tous les 5 ans. C'est évidemment une vie, on l'a décrite, qui est une vie intense. Avec des points de vue éthiques, avec l'intervention de contre-pouvoirs, avec la prise en considération de ce qui vient d'en bas, comme on disait, des citoyens, des territoires, avec la prise en considération de manières d'agir politiquement qui ne soient pas au sein des partis politiques. Donc ça suppose une vie démocratique intense qui n'est pas très simple à organiser lorsque on a un job, on a un travail où on gagne mal sa vie. Lorsqu'on n'a pas accès au savoir, et donc ça suppose certainement une réorganisation démocratique. Lorsqu'on discute, moi j'étais à un débat il y a 3 jours avec à propos de à Nantes sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes et l'abandon de l'aéroport, et il y avait quelqu'un qui avait fait un film sur Notre-Dame-des-Landes et qui montrait cette communauté. C'était pas du tout sur l'affrontement avec les forces de l'ordre, c'était sur en quelque sorte la parenthèse enchantée. Entre guillemets, de cette communauté démocratique où on avait le temps, parce qu'on ne gagnait pas sa vie, de retrouver le temps de discuter, de débattre, d'apprendre des choses aussi, comme on fait peut-être dans une communauté Emmaüs. Voilà. Donc c'était assez intéressant et par ailleurs très utopique. Et donc, par rapport à ta question, le sujet c'est est-ce que dans le mode de vie que nous avons aujourd'hui, on peut réellement imaginer que... la vie démocratique soit aussi intense qu'elle devrait l'être si on veut changer de modèle de développement et respecter l'écologie. Moi, c'est plutôt comme ça que je pose la question. En revanche, je ne crois pas à l'homme providentiel de l'écologie, c'est ni Xi Jinping qui effectivement fait 2 choses à la fois, comme ça a été dit, et qui passe son temps à augmenter la productivité du charbon. Je crois que si l'Union européenne est très moteur sur ces sujets-là, c'est parce que c'est justement un espace démocratique.
Alors hein.
Je concorde. Je concorde. Il y a eu quelques initiatives en Chine intéressantes quand même sur le qui c'est pas parce que la Chine l'a fait que forcément c'est pas bien sur le numerus clausus de plaque d'immatriculation dans une ville par exemple, c'est à mon avis c'est pas une mesure dictatoriale que d'adopter ce type de choses.
Il y avait une info aujourd'hui Shenzhen, alors je veux pas me tromper, mais peut-être, je crois que tous les taxis de Shenzhen, ce qui est quand même 17 millions d'habitants, sont passés à l'électrique désormais. Juliette.
Et la Chine produit autant de premier producteur d'énergie renouvelable aussi.
Oui. Bon, après, et à la fois la Chine ouvre je crois de 2 centrales charbon par semaine
Donc. Ils font les deux en même temps. Mais c'est plutôt plus de démocratie, je pense, que moins dont on a besoin.
C'est bon. Sur cette question, justement, je voulais partager une une frustration grandissante que j'ai vis-à-vis de la démocratie représentative telle qu'on la connaît en France, c'est que on nous demande notre avis pour un vote tous les X ans, mais déjà c'est uninominal majoritaire à deux tours, donc si on n'a pas voté pour la personne qui gagne à la fin, c'est pas une liste, c'est pas une proportionnelle, on a notre opinion, elle est pas prise en compte. Et puis on n'est jamais appelé. Quand on donne notre avis, souvent sur des projets où il y a une concertation publique, ça arrive souvent à la fin et on peut pas, on a peu de contrôle sur nos élus. Et puis je me souviens que quand il y a eu un référendum en février ou un peu plus tard cette année à Paris sur pour ou contre les trottinettes électriques en libre service, et je me souviens d'avoir éprouvé une joie bizarrement disproportionnée au fait qu'on me demande mon avis sur un sujet qui est pas très crucial, mais en fait il y a des formes de démocratie certainement plus intenses que ce qu'on vit actuellement qui permettent de plus souvent participer à des débats, de donner son avis, et cette grosse frustration aussi par rapport à la Convention citoyenne pour le climat, que d'autres modèles de prise de décision qui ne sont pas dictatoriaux, bien au contraire, existent, et que c'est pas cela qu'on expérimente en démocratie.
Une dernière question ? Ou une dernière intervention ?
Il y a un référendum le 4 février parisien, une consultation sur le SUV, plus ou moins de SUV. J'ai ressenti la même joie que toi quand j'ai vu qu'il y avait cette consultation à venir. Ça me semble quelque chose de positif. Et je voulais dire quelque chose à partir de ce que vous aviez dit sur Notre-Dame-des-Landes. Je pense que Notre-Dame-des-Landes, et c'est ce que sait de faire le pape François aussi et qu'on essaie de faire aussi avec François d'Assise, c'est ça crée un imaginaire. Et on a tellement besoin de ça. C'est-à-dire qu'on sait où on veut pas aller, mais on sait pas très bien où on veut aller. Et pour changer de chemin, il faut que l'autre chemin, il nous fasse envie quand même un petit peu. On peut pas juste être motivé par la peur de la catastrophe. C'est pas très très stimulant ça. De faire vivre ce modèle d'auto-organisation qu'il y a eu à Notre-Dame-des-Landes, j'ai l'impression que ça a inspiré toute une génération qui est passée quelquefois juste un jour et c'est intéressant. Et François d'Assise, moi j'ai envie de dire, il est inspirant aussi, même si c'était il y a 900 ans, 800 ans. Il est inspirant aussi parce qu'il a dit non, il a arrêté, il s'est dit qu'il allait rebâtir, enfin Dieu lui a dit de rebâtir l'église. Enfin, c'est des projets extrêmement stimulants. Il s'est mis tout nu et il a balancé, c'est le premier bifurqueur, l'entreprise familiale textile pour dire qu'il allait faire complètement autre chose, qu'il a pas gagné sa vie, qu'il allait vivre autrement, qu'il allait avoir d'autres valeurs. Moi, je trouve que c'est extrêmement stimulant et qu'il y a des gens qui s'en inspirent et je pense qu'on peut être plus nombreux à s'en inspirer. Voilà.
Merci Laura de terminer sur cette note d'espoir, d'espérance. Étienne.
Merci beaucoup pour cette intéressante soirée sur un sujet vraiment crucial aujourd'hui. Notre prochaine soirée aura lieu le 16 janvier, donc pas le 9, le 16. C'est une semaine plus tard que d'habitude en raison des vacances universitaires. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon temps de l'Avent, de très bonnes fêtes de Noël et je souhaite de vous revoir le 16 janvier. Merci beaucoup.